tu vu le lockout. On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town. C'est vendredi, on prend un coup, ça parle de boxe dans le coin. Qu'il soit bleu ou rouge, c'est pour la boxe technique. Ou bien les gars de Goom, si tu gardes pas tes mains, oh, tu risques de perdre le zoom. Ça parle des Gaumont, jusqu'à Lucas Klitschko, jusqu'à Charlot, des Clavel, jusqu'à Canelo. Get on art, le steak de Buckingham. La légende, le buzz qui m'écoute. As-tu vu le knockout? As-tu vu le knockout? On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town.
En direct de une cuisine, présentement, de Rosemont, Montréal. Mais je vais vous dire, il est quand même assez tard. On est dimanche soir. Je reviens de Stansted, où je suis allé visiter les installations modernes et luxueuses des fermes Saint-Martin. Ce qui est arrivé, c'est tant qu'à m'en mettre autant derrière la cravate de produits des fermes Saint-Martin, aussi bien d'aller visiter directement sur place les installations. Donc, on parle de quasiment une cinquantaine d'hectares de production. Vraiment, l'animal là-bas est quasiment en pleine liberté. Je voyais les porcs se trémousser dans la boue. Ils avaient l'air très heureux. Je voyais les poules gambader. Je voyais les poussins qui avaient même de la petite musique d'opéra pour les accompagner dans leur gestation. Donc, écoute, le bonheur des produits de qualité aux fermes Saint-Martin. Aussi, bien sûr, j'ai des commentaires à faire là, en début d'émission. Hier, je voulais aller écouter un film pour vous en faire l'analyse. Je suis arrivé 20 minutes en retard au cinéma. J'avais lu 14h25. Mais j'avais lu 14h45 dans le bottin. Puis finalement, le film était à 14h25. Fait que j'ai manqué. Je suis arrivé, j'étais déjà commencé. Fait que j'ai laissé faire, je vais y aller un autre jour. Aussi, le Canadien m'a jeté à terre. Ça, c'est rare. Là. Petite chronique hockey, je mets 30 secondes là-dessus. Kirby Dack, qu'on est allé chercher contre Alexis Romanov, un centre de 6 pieds 4, 2,20, tout le talent du monde, pas un grand finisseur pour compter des buts, mais j'ai hâte de, vraiment hâte de voir si on va réussir à le développer. C'est comme si on était allé chercher une alternative à Jesperi Kotkaniemi, puis là, on ne sait pas comment ça va se terminer. Et le Canadien m'a jeté un peu au sol en repêchant un ailier avec le format de Arslanbek Makhmoudov. 6 pieds, 6 pouces, 240 livres de muscles. Le Canadien est allé chercher Juraj Slakowski. Donc, ben, à suivre. Là. Mais j'espère que le Canadien va être bon parce que moi, je suis rendu à 40 ans. Puis je ne demande même pas de Coupe Stanley, mais j'aimerais savoir une équipe potable une dernière fois avant de m'éteindre. Je suis toujours à mon retour à l'entraînement. Les choses se passent. Ça va quand même assez bien. J'arrache les poids avec mon arme secrète iranienne, l'athlète de très haut niveau, Siamak Ramati. J'ai été beaucoup moins raqué cette semaine. C'est un peu le concept du gymnase. Hein? Plus tu y vas, moins ça fait mal. Et aussi, je fais mes lunchs, j'essaie d'endurer la diète. Et à force de l'endurer, la diète, je vous dirais que ça devient plus facile. Les habitudes se créent. J'ai 100 livres à perdre, reste à voir si je vais y arriver, mais c'est un jour à la fois. Aujourd'hui, quand je suis allé aux fermes Saint-Martin, j'ai eu le loisir de passer toute la journée avec Martine Vallière-Bisson. Et elle avait mis une camisole blanche, Mais je veux dire, là, j'ai vu des muscles dans son épaule, des fibres musculaires que j'avais jamais vues. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi découpé des épaules. C'est spectaculaire. Elle a le dos bâti un peu comme un sapin de Noël à l'envers. Toute une athlète, cette Martine Vallambisson. Et quelle fille aussi agréable à côtoyer. Le gars qui va mettre la main là-dessus pour un mariage risque d'être comblé longtemps. Donc, 4 heures de voiture avec Martine, on a bien rigolé. J'ai visité les installations des fermes Saint-Martin, ce qui fait que mon podcast est aussi tard. Je ne sais même pas si je vais le sortir aujourd'hui. Aux nouvelles, j'ai écouté le combat de Derek Chisora contre Kubrat Pulev et c'était pas pour les doux. Ray Vargas contre Marc Sayo. Magomed Kourmadov l'a remporté. Je vais vous raconter la fois que Joachim Alcine a gagné son championnat, où j'étais puis comment ça s'est passé un 7 juillet 2007. Je vais aussi vous raconter chronique historique. Maurice Montboucher est décédé cet après-midi. Je vais vous raconter la fois où il avait été reconnu non coupable et que le soir même, il se présentait au Centre Bell pour la Gatimania. Vous allez voir, c'est une soirée assez historique et assez folklorique pour la boxe. Même si ça fait 22 ans, vous allez voir, c'est encore assez d'actualité. Et pour le reste, on va parler de la Colombie, on va parler des galas d'Eye of the Tiger en septembre, on va parler de ce que vous voulez, dans le fond, c'est votre podcast, et ça commence dans les prochaines secondes.
Gabrielle, c'est quoi ça?
La canneuse.
Puis ça, c'est la ricaneuse.
Ouais, aujourd'hui, finalement, je vais vous raconter deux histoires pour commencer. Quand on est un bon raconteur, aussi bien raconter, comme dirait le proverbe. Maurice Mom Boucher est décédé en prison. Et il faut que je vous raconte l'histoire de la journée folle de la Gatimania et de Maurice Mom Boucher. On se rappelle que Maurice Momboucher a été reconnu coupable de complot pour assassiner deux gardiens de prison. Donc, son procès a eu lieu en deux temps. Parce que la première fois, il a été reconnu non coupable. Et la deuxième fois, il a été reconnu coupable. Mais lors de la première, OK? Les juges, mais en tout cas, je me rappelle pas. Là, il me semble que c'était sous jury, là, mais c'est pas bien grave dans mon histoire. Il est reconnu non coupable le matin. Et là, il y a une scène qui est un peu surréelle au palais de justice. Il y a beaucoup de ses amis qui l'attendent. Puis, tu sais, vous le savez, là, c'est des costauds, puis ça fait du bruit. Tu sais. Puis, ils descendent l'escalier roulant du palais de justice sous les applaudissements, les gars, ils crient « Mom, Mom, viens-t'en ici! » Ça se prend dans leurs bras, puis c'est comme une grande victoire, un peu du crime organisé face à la justice. On peut voir ça, comme image. Mais le soir, au Centre Molson, on est vendredi le 8 septembre, la carte est présentée par Interbox. La grande finale, c'est la Gatimania. C'est Arturo Gatti contre Joe Hutchinson, un gaucher. Un combat que Gatti va saigner comme un porc. Dans la même soirée, il y a Stéphane Ouellet qui va enfin gagner un combat, le dernier de la trilogie, contre Dave Hilton. Pour vous dire à quel point c'est folklorique comme soirée, Dave Hilton va se faire saisir sa bourse par un huissier à cause qu'il n'a pas payé ses pensions alimentaires. Donc, il marche vers le ring et là, un huissier sort d'une boîte à surprise et lui confisque sa paye. Il s'en va se battre contre Ouellet littéralement pour rien parce qu'il n'a pas payé ses pensions alimentaires. Léonard Dorin va faire un des combats les plus excitants et spectaculaires que j'ai vu dans ma vie contre Gary Sinclair. Sur la même carte, il y a Alex Hilton, Patrice Lheureux et Dave Nash contre David Sévigny. Mais là, attendez, là, c'est pas fini mon histoire. Maurice Monboucher est présenté sur le grand écran, l'écran géant au Centre Bell, qui est neuf, là. Et il est ovationné par les fans de boxe. Premièrement, je ne sais pas c'est qui a eu la bonne idée de le mettre sur l'écran géant. Puis deuxièmement, je ne sais pas c'est qui a eu la bonne idée de... les gens se mettent à applaudir. Mais c'est un peu ça, le monde de la boxe. C'est un monde qui flirte avec le monde interlope. Et là, on voyait ça. Puis Monboucher, moi, je l'avais vu souvent au gymnase. À vrai dire, je le voyais à chaque jour. Je n'y parlais pas. Puis, tu sais, pour vrai, à un moment donné, tu ne peux pas détester quelqu'un que tu connais pas. Le gars, je le voyais à tous les jours. Il était gentil avec tout le monde. Puis, il mangeait son petit spaghetti dans le coin. M'a jamais dérangé, rien. Jamais été intimidant. Moi, c'est la relation que j'avais avec Maurice Monboucher, qui avait été applaudi à la boxe. Fait que là, imaginez, là, on a Dave Hilton qui fait saisir sa bourse. On a Monboucher qui se fait applaudir. Et Éric Lapointe va manger une volée aux toilettes à un point tel qu'il est obligé d'annuler le reste de sa tournée. Mais là, tenez-vous bien, c'est parce que Éric Lapointe, 6 mois auparavant, Ginette Renault et Jean-Pierre Ferland avaient chanté pour des mariages de Hell's Angels. Je pense que c'était un gars qui s'appelait Balloon. Et là, Éric Lapointe avait dit « Moi, je l'aurais pas fait. » Et là, aux toilettes, il mange une volée. La même soir qu'il y a beaucoup de Hells Angels aux toilettes. Et il refuse de porter plainte. Puis il est obligé d'annuler le reste de sa tournée. Vous voyez, ça, c'est une de mes bonnes histoires de boxe. Quelle journée quand même spectaculaire que cette journée du 8 septembre 2000. Je vais vous conter une autre de mes bonnes histoires de boxe qui implique Joachim Alcine. Moi, je travaille au bureau de poste. Puis à un moment donné, il y a un gars qui vient me voir et qui me dit « Moi, je suis le frère Joachim Alcine. » Je dis « Ça me surprendrait, tu pèses 350 livres puis Joachim en pèse 147. » Il dit « Je le sais, je mange pour deux. Je mange pour lui aussi. Je m'appelle Astrel Alcine. » Puis là, je me suis lié d'amitié avec la famille Alcine comme je connaissais Astrel. Mais moi, j'ai rencontré Astrel. Joachim avait déjà été champion du monde. Joachim, là, c'était quand même tout un boxeur. Il avait eu une solide carrière chez les amateurs où il se rendait souvent en finale contre le frère de Steve Molitor, Jérémy Molitor. Là, il va passer chez les pros et tout de suite, il passe chez les pros avec Interbox à l'époque. Là, notre Joachim, il gagne des victoires. C'est ma bonne amie Martine Vallière-Bisson qui disait comment ce gars-là pouvait être aussi solide sur ses pieds pour avoir un des plus beaux jabs avec les jambes aussi larges. On dirait t'sais, qu'il se prenait une équerre là, puis il tirait les un rapporteur d'angle, puis il tirait les au complet. C'était les jambes de Joachim Alcide dans le ring. Puis je me rappelle un soir, j'étais allé le voir boxer avec Astrel, justement, un 22 novembre 2011. Il affrontait Benjamin Modesté. C'était la soirée de Otis Grant contre Dingane Tobella. Je me rappelle comme c'était avant-hier. Bouté faisait ses débuts professionnels. Nous autres, on était allés voir Bouté faire ses débuts professionnels. Ngujo faisait ses débuts professionnels. Alcine était 16-0. Puis il y avait Otis Grant contre Tobella. On était très heureux. Okay? On se dirige là. Ça avait duré 2 minutes. J'avais crié à Alcine, « T'es-tu payé à l'heure ou t'es payé de la job? » Puis on avait bien ri. J'étais assis avec son frère dans la foule. Après ça, il avait battu une coupe de monde. Il a battu Stéphane Ouellet le 17 décembre 2004. Puis Alcine était tranquille quand même. Puis à un moment donné, il s'est rendu en championnat du monde, okay, contre Travis Sim. Faut que je vous raconte l'anecdote. Je suis dans une cour chez mon ami Émilie Proux. C'est son anniversaire. Sa mère, on n'est pas très vieux. Moi, j'ai 24 ans ou 25 ans. Mais mes amis, ils sont pauvres à cet âge-là. Ils étudiaient à l'université. Fait que sa mère, elle nous avait acheté de la bière pour tout le monde. Et là, j'ai convaincu tout le monde de monter au troisième chez Steve Vieira par la ruelle où on avait les poches pleines de bière pour écouter Joachim Alcine contre Travis Sim. Puis là, je racontais l'histoire que c'était des jumeaux. Un s'appelle Tarvis, l'autre s'appelle Travis. sont signés par Don King. Puis là, c'est la chance d'Alcine de devenir champion du monde. Mais là, quand tu nommes Don King, tout le monde dit « Don King, showtime, il va se faire voler au juge. » Puis là, moi, je suis comme « C'est plus compliqué que ça. Il y a des chances. » Cette soirée-là, Devon Alexander est là. Guillermo Jones est là. Berman Stiverne va affronter un gars qui s'appelle Demetrius King. Il va se faire surprendre. Il se fait knocker au quatrième. Fait que, il avait joué beaucoup sur la fibre haïtienne. Il avait son drapeau, je me rappelle, il avait son drapeau de l'Haïti, Don King, quand Berman Stiverne marchait vers le ring. Monty Barrett s'était fait surprendre aussi contre Cliff Causer. Fait que là, ça allait pas bien pour les gars de Don King. Et là, imaginez, Stiverne est signé par Don King, il perd contre Demetrius King. Monty Barrett est avec Don King, il perd contre Cliff Causer. Et là, il nous envoie Travis Sim contre Alcine pour le titre WBA. Puis Alcine, il fait une performance incroyable. Il va même envoyer Sims au tapis. Puis il remporte le titre. Et là, moi, j'étais vraiment heureux. Puis Alcine va défendre son titre. Je crois encore à ce jour que c'est son plus beau combat à vie. Il va marcher sur Alfonso Mosquera. Ça, c'était... Il a fait deux beaux combats, OK? Contre Alfonso Mosquera, sa première défense. Puis pour devenir aspirant obligatoire contre Javier Mamani, c'était du grand art. Ceux qui ont encore ça à la maison. Et là, il va affronter Daniel Santos. Puis après un début serré, il va tourner dans une main arrière de Santos qui est gaucher. Il va se faire endormir au stade Uniprix. Pour encore pour vous donner une idée, ce soir-là, accrochez-vous après vos souliers, j'avais vendu à moi-même 30 billets à 30$. Il y avait Alcine contre Santos, on avait Stiverne contre Brad Gregory, il y avait David Lemieux, il y avait Tony Lewis, Berman Stiverne en sous-carte. C'était Matchmaker, c'était Marc Ramsey. Ça vous donne-tu une idée? Puis le show est en co-promotion avec Don King puis Yvon Michel. Don King qui a ses drapeaux d'Haïti puis du Mexique en même temps. 30 billets à 30 piastres, j'étais avec 30 de mes amis. Je m'en rappellerai toujours. Quelle journée mémorable. Astrel Alcine avait invité toute sa famille, il avait mis son plus beau complet. Joachim avait perdu, puis il avait dit « J'ai jamais écouté un combat de Santos qui était gaucher. » Santos venait de battre Antonio Margarito. Puis je me rappelle qu'Alcine va dire, et je cite... Moi, je m'en remets un peu à Dieu. J'ai même pas regardé les combats. Puis après la défaite, Yvon Michel, il en a soupé des histoires de Dieu. Puis il est pas si content que ça. Puis il dit, ça n'a pas de bon sens de pas avoir écouté les combats. Puis ça brasse un peu. Il va revenir. Il va battre Eric Mitchell. Il va battre Christophe Canclot en plein après-midi. Là, je pense à TVA dans ce temps-là. Canclot, qui est un culturiste français. Et là, il va se faire endormir par Alfred Angoulot, faire nul contre José Medina, qui n'a pas grand-chose là. Et là, quand on pense qu'il est fini, dans une histoire de compagnie, tu sais, Alcine, délaissé par Yvon Michel, on le ramène contre Joachim, contre David Lemieux, avec en demi-finale, Adonis Stevenson contre Aaron Pryor. Sur la même carte, il y avait Yolanda Alvarez, Ousmane, Rivas, Didier Benz, Kevin Lavallée. Et là, Adonis va arracher la tête à Aaron Pryor Jr., qui avait affronté Gaëtan Hart, son père. Et là, Alcine, je ne sais pas comment il va faire son compte. Il va voler à l'entour de David Lemieux. Inspiré par je ne sais quoi, il va surprendre David Lemieux. Puis après ça, c'est 4 défaites de suite. Macklin, il se fait voler contre Brian Rose. Il fait la limite avec Julian Williams, va 3 fois au tapis. Il aurait pu connaître un meilleur sort contre Omar Chavez. Père contre Francisco Santana. Et là, il va essayer de se replacer un peu en affrontant des tout croches. Mais va venir au casino dans une carte là, où le promoteur, c'est un dénommé Joe DeGardia puis Alexandre Choco. Je sais même pas s'ils ont vendu 300 billets au Centre Bell. Il y avait des prospects comme Derek Rossi, Walid Michet, Kevin Lavallée. Il avait amené des gars à l'international comme un gars que Mario Perez. En tout cas, c'est un désastre au stade olympique. Et Alcine va surprendre l'aspirant mondial d'Elvin Rodriguez avec un combat nul. Puis après ça, il va se faire arrêter par Charlot, puis ça va être la retraite. Il est rendu entraîneur en Floride. Quand même une belle carrière. Puis je voulais vous raconter l'histoire un peu parce que cette semaine, ça a fait 15 ans qu'il avait gagné son titre. Puis ça va demeurer, le combat contre Travis Sim, une de mes belles journées à vie.
Que la mauvaise habitude des gens des régions du Québec, surtout Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord, de nous accueillir partout par un « Hey, salut, comment tu vas? » Il n'y a pas besoin de me faire tutoyer pour être apprécié. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Apprenez à vivre.
Au Ferme Saint-Martin, je suis littéralement rentré dans l'enclos pour nourrir les cochons avec la famille Saint-Martin. Et ça saisit les cochons parce que eux, ils sont bas sur pattes un peu. Et ils te mordent le soulier. Ils ont envie de jouer. Hein. Mais ça pèse un certain poids. Je veux dire une affaire, Martine Vallière-Bisson s'est faite mordre. Ses souliers Dox, ça a sursauté sur un moyen temps. Mais la famille Saint-Martin me tutoie en pas propre depuis ce temps-là parce qu'on a élevé les cochons ensemble, donc ils ont le luxe de pouvoir me tutoyer à l'international. Anthony Joshua serait, selon Robert Garcia, devenu très agressif dans le gymnase et ça va être un Joshua violent qu'on va découvrir contre notre ami Alexander Usyk. Sinon, qu'est-ce qui se passe à l'international? On s'approche de plus en plus du combat la semaine prochaine entre Ryan Garcia et Javier Fortuna. Il faut que je vous parle de ce Javier Fortuna-là. C'est un gaucher qui a une force de frappe terrible. Un soir, je le découvre dans un gala un vendredi. Il l'avait matchmaké là, contre un adversaire faible, mais faible. Puis Fortuna, il t'a toute une claque. Il rentre comme dans ses coups à l'adversaire parce qu'il se rend compte que le gars ne sait pas boxer. Il lui passe une main gauche de l'enfer. L'adversaire, là, couché à terre, les deux yeux fermés, collet cervical, masque pour respirer. Et là, l'animateur maison, l'analyste, commence à te rincer le matchmaker en disant « Ça n'a pas de saint bon sens. » Il a comme pas protégé. D'habitude, on va protéger l'adversaire parce que tu es sur un poste de TV. Tu ne commenceras pas à dénigrer les artisans de ce poste de TV-là. Mais lui, il avait marché sur le corps du matchmaker. Ça m'avait fait rire. Et mais ça, tout le monde est vivant. Connor Bean, ça fait à peu près, je vous dirais, 2 ans qu'à chaque combat que Connor Bean gagne, on nous dit « ça va être gros, ça va être gros, prochain combat, ça, oh, prochain combat, j'avertis. » Mais là, cette semaine, ils vont nous annoncer son adversaire, j'ai hâte de voir, parce que c'est un gars qui vend du ticket. On parlait beaucoup de Mickey Garcia, il a pris sa retraite, et ils nous ont averti que ce ne serait pas Chris Eubanks Jr. Connor Bean est 4e WBA, 4e WBO, 5e IBF, 5e WBC. Et là, ça parle beaucoup de Keith Thurman, Maurice Hooker, qui est 27-2. À suivre, on a pris notre temps avec Connor Bean, mais c'est évident que c'est un futur gros vendeur de billets en Angleterre. Derek Chisora s'est payé une victoire sur Kubrat Pulev. C'était tout un combat, OK? Parce que du côté de Chisora, il lançait des bombes, mais les bombes atterrissaient sa cible. Pulev, lui, lançait du 1-2, boxait plus classique, et lui aussi avait du succès. Les juges ont décidé que Chisora l'avait emporté. Et là, déjà, on essaie d'organiser Chisora contre Deontay Wilder. J'ai hâte de voir. Il y en a qui parlent de Chisora contre Dillian White. Chisora a vraiment trouvé un moyen d'aller chercher une dernière grosse bourse. Et ça n'a aucun bon sens comment Chisora a affronté tout le monde. Et qu'à chaque fois, c'était grandiose. Chisora, quel guerrier. Chisora se bat, tu te plugues, tu sais que tu as le combat de l'année. Errol Spence,
qui lui gère la carrière de Frank Martin, veut opposer son boxeur à Rolly Romero. Tyson Fury, je suis inquiet pour, c'est, pour la santé, sa santé mentale. Il dit vraiment tout est son contraire. Est-ce qu'il rit du monde? Est-ce qu'il s'amuse un peu avec les journalistes et les médias sociaux? Ou est-ce qu'il est en train de virer fou? Une journée, il demande 750 millions pour affronter le gagnant de Joshua Usyk. Le lendemain, il est prêt à les affronter gratuitement. Il déclare cette semaine, ça me sert à quoi de continuer à me battre pour finir d'une chaise roulante où personne ne va venir me voir à l'hôpital? Le lendemain, il n'est plus à retraite. Il y a deux choses. Soit il rit de nous autres, soit il est en train de perdre la tête. Là, c'était rendu qu'il voulait affronter Joshua gratis au Wembley Stadium. Il va pas bien. Notre homme ne va pas bien. Je vous aurais averti. Marc Maxayo a perdu une split décision contre Ray Vargas à San Antonio. C'était présenté par PBC, qui présente quand même pas souvent des cartes. Là. Sont tranquilles. Puis Marc Maxayo, surnommé le Magnifico, lui, c'est le dauphin de Manny Pacquiao, affrontait Ray Vargas. Et je vous le dis, ça n'a pas de bon sens. Vargas mesure 6 pieds 1, pèse 126 livres. Il lance des bombes, travaille à l'intérieur, frappe au corps. Il peut vraiment tout faire. Il a été le plus précis des deux, surtout au niveau des coups de puissance. Et il l'emporte. Et les juges 115-112, 114-113 Maxayo, puis 115-112 Vargas. Écoutez, là, je pense qu'on n'a pas le choix d'y aller qu'une revanche. Brandon Figueroa, lui, a battu Carlos Castro par KO dans la sous-carte. De la qualité, ça c'était de la qualité. En fin de semaine, il y avait peut-être moins de combats, mais on a eu des très bons combats. Magomed Kurbanov a gagné tous les rounds sur Patrick Stixra. Un autre qui va finir par être en championnat du monde, Kurbanov. Peut-être ça passera pas, par exemple, parce que il est pas super flashy, mais pour le moment, trouve toujours le moyen de gagner. Selon Errol Spence, il se rapprocherait d'un combat contre Terence Crawford. À chaque semaine, là, je vous fais le même commentaire sur Crawford et notre ami Errol Spence. Donc, qu'est-ce qui reste d'autre? Canelo, j'ai hâte à Canelo Golovkin, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, là, cette semaine, les deux continuent un peu à jouer au chat et à souris. Canelo, il en veut pour mourir. Golovkin continue à garder le personnage du bon gars. Comme à la lutte, c'est important qu'il y ait un bon et un méchant. Et ça, il joue parfaitement le bon Golovkin. Lomachenko a fini son service militaire et est prêt pour un retour. Il a déclaré... il va y avoir une revanche obligatoire entre Devin Haney et Josh Combozo Jr. Lomachenko, il a dit « Ok, c'est bon, je prends le gagnant. » Là, qu'est-ce qu'il va faire entre-temps, je ne le sais pas. Mais la dernière run, tu sais, Lomachenko a 33 ans, je pense. Les jeunes sont très jeunes. La dernière run de 2 ans et demi, 3 ans là, qui s'en vient... risque d'être très intéressante. Et c'est quand même assez génial de penser qu'on a un quatuor de jeunes aussi fou, mais avec Lomachenko qui est au travers, puis qui peut probablement battre les 4 de suite. Donc, on est gâtés, les gens à la maison. On est très gâtés. Lomachenko, de l'avoir vu de notre vivant. Puis tu sais, même s'il a perdu 2 combats, les combats qu'il a dominés, qui amenaient les adversaires à l'abandon. C'était du très haut niveau. Je vais demeurer en chronique scène internationale, mais pour vous parler du groupe Yvon Michel, la carte de la Colombie, là, le 13 août prochain, c'est de plus en plus étrange. Du côté d'Yvon Michel, on garantit que le gala va avoir lieu. Si tu fouilles un peu, il n'y a pas vraiment de billets à vendre. Puis on est à un mois du gala. C'est quand même un aréna où tu peux vendre 45 000 tickets. Le stade Pasquale Guerrero à Cali. Tu vois, c'est le 13 août. Là, si ma mémoire est bonne, je suis en train de finir le podcast un lundi. Je sais pas ce qui se passe. Je suis mêlé. On est le 11 août. Fait que si je sais compter, 11 août, 11 juillet, 13 août, 33 jours. Fait que là, je sais pas. Mais je vais vous dire quelques scoops que je suis pas supposé vous dire. Oscar Rivas va affronter Lucas Rosensky. Cecilia Brecus va affronter Patricia Bergult. On aurait trouvé un adversaire pour un combat de 10 rondes pour Dieudonné Wilfred Seyi, un Colombien de 17-2 qui est une petite vedette locale, je ne me rappelle pas son nom, mais que ce serait un combat d'importance pour Wilfred Seyi. Alexis Barrière serait sur la carte contre un boxeur qui a déjà participé aux séries mondiales de boxe. Anna Gabriel serait sur la carte pour défendre son titre des poids lourds. Patrice Volny est apparu sur la carte sur BoxRec. Le problème, c'est que Volny lui-même n'est pas au courant. Ça va être à suivre. Donc, on y va d'une solide carte. Et le groupe Yvon Michel aurait aussi, et ça, je l'ai découvert en fouillant ses interwebs, Yvon Michel aurait signé un prospect, un gars qui va passer pro, qui a 29 ans, un Colombien. Et lui, il ramènerait, Yvon le ramènerait dans ses valises. Et là, c'est un gars de 6 pieds 6, 240 livres, qui a participé aux Jeux Olympiques. Je ne sais pas à quel point là, ça compte dans l'équation, mais il a battu Joshua Fraser, qui est un boxeur que Eye of the Tiger aime mettre sur Punching Grace là, parce qu'il appartient à l'autre promotion canadienne. Donc là, notre bon ami Yvon se paierait le gars qui l'a battu. Tu sais. Un dénommé... je ne me souviens même pas de son nom. Christian Salcedo, 29 ans, 6 pieds 6, 240 livres. Un vrai prospect poids lourd. Participé aux Jeux Olympiques. Donc, plusieurs questions. Qui va l'entraîner? Deuxième question... Est-ce qu'il est déjà en route vers... Est-ce qu'il va venir vivre à Montréal? Est-ce que ça, c'est réglé? Écoutez, on va le découvrir en temps et lieu. Donc, la carte en Colombie est intéressante. Rendue à 33 jours, on n'a pas vraiment de garantie. À Cornwall, le 6 août prochain, Tony Lewis va affronter Steve Claguette. Et là, je vais vous le dire, je devrais être à Cornwall. Cornwall, je vais vous assommer, là. Hier, j'étais allé dans le coin de Stansted, ça a pris 2h05. Cornwall, 1h02. C'est deux fois moins long aller en Ontario à Cornwall que sur le bord des lignes visiter les fermes Saint-Martin. Donc, probablement que je vais me retrouver à Cornwall pour Tony Lewis contre Steve Claguette. Écoutez, Claguette, on aimerait ça le voir contre un top 10 mondial, essayer une dernière ride. Mais ce sera Tony Lewis en attendant, mais une victoire contre Tony Lewis le propulsera près de ce fameux combat top 10 qu'on lui souhaite tant. Eye of the Tiger a aussi annoncé une carte le 9 septembre prochain, et là, ça m'a fait sourire, parce que le matchmaker, Stéphane Noyer, souvent, il va, quand il ne trouve pas d'adversaire, il va demander à un agent mexicain de l'aider. Ben moi, pas plus fou qu'un autre, je me suis abonné à la page de l'agent mexicain. Puis souvent, les indices sont grossiers. T'sais, On cherche un poids lourd pour le titre NABF. Très bonne fiche demandée. Mais c'est assez évident que c'est Arslanbek Makhmoudov. C'est lui le champion NABF. Sur la même carte, on cherche un combat de 8 rondes pour une fille de 6-0, Marie Spencer. Puis une fille à 135 livres, Léla Beaudoin. Donc le 9 septembre, ce serait Makhmoudov, Spencer, Beaudoin. Le 16 septembre, ce serait Christian Mbili, qu'on attend toujours le nom. Confirmation de ton adversaire, ce serait un adversaire américain. Et en sous-carte, il y aurait Steven Butler. Hâte de voir ce qui va se passer aussi avec Simon Kane, parce qu'on me semble qu'on n'entend plus parler, pas en tout, pour monter dans le ring. Est-ce qu'il est blessé? Je ne sais pas. Est-ce qu'on le garde pour Shawinigan? Mais Eye of the Tiger revient avec deux galas, le 9 et le 16 septembre. Tant mieux, c'est rapproché, mais écoute, ça nous fera, ça m'occupera deux samedis. Ça va me garder de bonne humeur. Cornwall, Tony Lewis, Steve Claggett. Colombie, si les choses se passent. On a Tommy Hull qui va affronter John Michael Blanco aussi. Donc, la scène locale, ben, sans dire qu'elle est forte, elle survit présentement. Ouais. Fin du podcast. On est rendu à ce qui ressemble un peu à la conclusion. J'aime ça. C'est certain, d'habitude, je le fais dans l'introduction, mais là, je veux vous faire une chronique cinéma parce que hier soir, j'étais chez moi, OK? J'avais la voix éteinte. J'étais fatigué. J'avais pogné un coup de soleil. J'étais comme vidé d'énergie. Et là, il faut que je vous raconte ça. Sur ceux qui sont abonnés à Tout.tv, il y a mon ami Dino qui est apparu dans les films et c'est mon film préféré. C'est celui qui jouait Scarfo dans Omerta, Dino Tavarone, qui fait un film, et là on est en 2016, et on suit son diagnostic de cancer. Et c'est triste, là. Il est allé en prison, lui, à un moment donné. Il s'en va en prison, visiter où il était. À un moment donné, il donne son chien à sa fille. On le voit aller se faire couper les cheveux. Il commence à vider son appartement. On le voit comme dépérir. Mais tout au travers du film, il nous répète « Je suis un comédien. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? » Puis on nous donne des citations. Mais moi, naïvement, j'écoute le film en 2016. Il faut que je vous dise comment je me suis rendu là. C'était marqué sur Internet. Si on ne vend pas 13 billets aujourd'hui, on n'est pas dans le cinéma la semaine prochaine. Fait que je me suis dit, ben, je veux le voir, ce film-là, je vais y aller aujourd'hui. Il en resteront juste 12 à vendre. Puis tout le film, on suit la vie de Dino avec son cancer et qui commence à se préparer pour la mort en donnant ses choses. Puis à la fin, il nous joue un tour. Je suis peut-être pas malade finalement, c'était peut-être un film. Puis là, on comprend pas trop, mais je suis allé sur Wikipédia, puis ça fait 6 ans qu'il est pas mort. Fait, je pense qu'on s'est fait jouer un tour, mais le film est comme merveilleux. Tu pleures du début à la fin. À la fin, t'apprends que tu t'es fait jouer un tour par un comédien. J'ai un peu de vous divulgâcher le film, mais je crois que ça vaut quand même la peine de l'écouter. Mon ami Dino, sur tout.tv, c'est ma recommandation pour cette semaine. Un film qui va vous faire pleurer, qui va vous faire choquer. Donc, c'était ton podcast 137. Écoute, ça fait 40 minutes de divertissement. Si c'est pas assez, t'écouteras des reprises. Merci aux fermes Saint-Martin pour ce coup de soleil sur mes avant-bras. Merci à Martine Vaillard-Bisson. Je réitère, envoie-moi la facture d'essence, je vais la payer. Et sinon, c'est à peu près tout. On est lundi matin. Bonne semaine, amusez-vous, puis qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Soyez juste heureux, profitez du moment présent, parce que le moment présent est le passé des prochaines minutes. Merci, au revoir.